à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler de racisme et d'antiracisme parce qu'à l'ULB, s'est déroulé, puisque l'émission est enregistrée avant l'événement mais est diffusée après l'événement, le festival antiraciste à l'ULB. Et on a avec nous Yasmina Zian. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes docteur en histoire et vous êtes beaucoup penché sur ces questions de racisme.
Notamment à travers les questions d'antisémitisme en Belgique et la criminalisation des étrangers entre 1880 et 1930, et puis aujourd'hui, plus avec les questions de décolonisation de l'espace public et de toutes les polémiques qui entourent le Musée royal de l'Afrique centrale, aujourd'hui appelé Africa Museum.
Et alors, quand on regarde dans le Robert à racisme, on a la définition d'abord idéologie postulant une hiérarchie des races, donc ça c'est la première définition, et la deuxième, discrimination, hostilité violente envers un groupe humain, et il donne comme exemple racisme envers les femmes, c'est le sexisme, envers les homosexuels, l'homophobie. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition du Robert ?
En fait, je la trouve assez surprenante parce que c'est pas du tout ce qui est le plus répandu comme perception, enfin, ou en tout cas compréhension du terme racisme. Ceci dit, moi, je suis pour qu'on considère que toutes les formes de discrimination, qu'elles soient, elles s'expriment à l'égard des femmes ou à l'égard de communautés homosexuelles ou autres, ben, qu'on puisse montrer qu'elles ont les mêmes mécanismes que le racisme, c'est-à-dire qu'à travers un discours, des argumentations, on veut exclure et dominer une minorité.
Et alors, donc, pour vous, si on prend la définition du racisme, enfin, quelle est, en fait, pour vous, votre définition du racisme, ce qui n'est pas la vôtre hein, spécialement, mais laquelle, avec laquelle vous adhérez ?
J'ai pas réfléchi avant dessus, mais disons que le racisme, c'est généralement une idéologie qui permet de dominer un groupe avec des arguments, mais généralement, enfin, pour dominer pour des raisons économiques ou en tout cas de pouvoir, c'est ça. Et là, dans le cadre du racisme, bah, c'est surtout des groupes qu'on va distinguer, soi-disant, avec des arguments de race, donc c'est-à-dire soit en fonction de l'apparence, mais aujourd'hui, ça, on voit bien que ça se transforme avec des arguments dits culturels.
Voilà, donc on parlait au 19e siècle de scientifique, enfin de racisme scientifique. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là.
Oui, tout à fait. Oui, heureusement, je pense que la Deuxième Guerre mondiale a vraiment joué un grand rôle là-dedans pour vraiment remettre en question et puis montrer le négatif de ce que le racisme provoque dans la société. Ceci dit, c'est pas parce que le racisme en tant que tel a été critiqué que le concept de race n'est plus valable. Alors, évidemment, les races n'existent pas biologiquement. Ceci dit, du fait de siècles de racisme dans notamment la société occidentale, ben il y a des restes qui existent encore aujourd'hui et on va voir certains groupes discriminés du fait de leur apparence, de leur nom, de leurs pratiques religieuses. Et donc là, le concept de race en fait est encore pertinent à utiliser, même si la race biologique est inexistante, juste parce qu'elle a encore des effets sociaux sur nos sociétés, oui.
Alors aujourd'hui, le mot racisme est presque un gros mot. Quand on traite quelqu'un de raciste, plus personne n'est raciste. Pourtant, ce racisme existe encore.
Oui.
Alors aussi, aujourd'hui, donc le racisme, on se demande aussi quelque part, en tout cas dans nos pays comme en Belgique, est-ce que le racisme est corrélé avec le colonialisme ? Est-ce que la colonisation a engendré le racisme ?
Voilà, alors la colonisation n'a pas engendré le racisme. On peut certainement remonter le racisme à l'esclavage, en fait, donc plus ancien. Ceci dit, en tout cas notamment pour la société belge, le fait d'avoir été une puissance coloniale, ça a amené des représentations coloniales très fortes au sein de notre société, notamment par exemple du fait d'avoir exploité le caoutchouc, d'exploiter d'avoir produit du cacao grâce aux exploitations au Congo. Et donc tout ça, ça a fait que les consommations des Belges ont changé, mais aussi toute l'iconographie publicitaire a été porteuse, et c'est un exemple parmi d'autres, de représentations négatives. Il y a aussi tous les récits de dits explorateurs occidentaux qui vont en Afrique et puis qui reviennent avec des romans d'aventure, enfin qu'ils appellent ça comme ça. Et toute cette culture, tous ces éléments culturels vont construire une représentation de l'autre qui est encore présente aujourd'hui. Et qui est d'ailleurs en fait encore présente dans l'espace public. Quand on voit le monument aux pionniers belges qui est dans le parc du Cinquantenaire, on voit l'esclavagiste arabe qui est écrasé par un soldat de Léopold II, donc de la force publique, dans l'État indépendant du Congo. On voit un homme noir qui est allongé près d'un crocodile sur le fleuve, comme si, enfin, et à moitié nu. Donc tout ça, et même la statue de l'archer de Dupagne dans l'espace public près dans le quartier de Etterbeek. Donc ça, c'est un homme accroupi qui est aussi à moitié nu, qui est en train de tenir un arc. Tous ces représentations dans l'espace public, mais aussi dans la publicité, le packaging, sont, oui, ont vraiment diffusé des représentations très clichés qui sont encore présentes, même inconsciemment, dans les esprits.
Oui, parce que si on prend la publicité, on est loin de... Enfin, on ne peut plus admettre certaines iconographies, comme vous disiez, enfin, certaines images, certains concepts, tels qu'on a pu les voir encore jusque dans les années 80, finalement.
Mm-hmm. Oui. Oui, on peut pas, et en même temps, il y a des gens qui militent pour qu'elle soit conservée. Et c'est le cas, par exemple, les différents carnavals, le Père Fouettard, et tout ça, il y a des gens qui militent pour que ça soit conservé, parce que c'est considéré comme, enfin, par ces personnes, comme quelque chose qui fait partie du patrimoine culturel belge, voilà. Évidemment, comme eux ne sont pas représentés négativement, ils ne voient pas la blessure que ça peut faire. Et puis après, il faut aussi dire que tout le monde n'est pas touché de la même façon de ces représentations négatives. Mais en tout cas, il y a effectivement des demandes pour évoluer vers des pratiques culturelles qui soient pas offensantes. Mais on voit, il y a vraiment un backlash. Maintenant, c'est vraiment des fois un vilain mot de parler de décolonisation.
Aussi, ce terme-là aussi.
Oui, oui. Bah, décolonisation comme décoloniser l'espace public. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment... ça devient de plus en plus dur, en fait. Et donc, il faut utiliser... En tout cas, dans la recherche, on voit qu'on utilise d'autres termes que... approche décoloniale ou d'autres termes que décolonisation de l'espace public pour parler en fait de ces transformations qu'il y a sur le patrimoine culturel.
Et c'est qui alors ces gens qui s'opposent finalement à ça? Est-ce qu'on est encore, on est quand même en Belgique sorti de cette période coloniale, enfin c'était il y a 1960, c'est quand même assez loin finalement.
Oh, pas du tout, et alors enfin 1960 c'est relatif. Enfin, pour une historienne, c'est très proche.
Oui, là, je comprends évidemment comparé à l'Empire romain.
Voilà, c'est ça. Mais après, enfin, pour moi, il y a. Je dis toujours que la différence, par exemple, avec le traitement de la Deuxième Guerre mondiale, les traitements de la colonisation, est différente parce que Hitler, il a perdu la guerre, et ma perception, c'est que les indépendances n'ont pas été des victoires pour les pays anciennement colonisés. En tout cas, par exemple, pour le Congo belge et la République démocratique du Congo, on voit bien que la situation aujourd'hui est encore pleine de néocolonialisme à tous les niveaux politiques et économiques. Donc c'est pas réellement une victoire. Et je pense que ça permet à des gens de pas devoir se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on a tout plein de personnes qui disent que si on parle des effets négatifs ou des aspects négatifs de la colonisation, il faut parler aussi des aspects positifs. Donc il y a vraiment en fait énormément de gens en Belgique qui ont qui milite pour une représentation positive de la colonisation, même si partout dans la société, on condamne la colonisation. Parce que la colonisation, c'est l'exploitation d'un groupe par un autre à des fins économiques et politiques. Enfin, donc, voilà. Étrangement, il y a des gens qui... Enfin, étrangement. Alors là, après, évidemment, il y a des études qui se font pour expliquer ça. Et il y a notamment des explications psychologiques du fait que la colonisation est liée à des liens affectifs. C'est-à-dire qu'on va... On va se rappeler du Congo belge à travers des objets de la grand-mère ou de l'oncle, des lettres, enfin. Et donc, on se rappelle de cet oncle qui était pas méchant du tout, qui était très gentil, et on a du mal à remettre en question. Et en fait, il y a les mêmes études qui sont faites aussi sur les grands-parents qui ont été collaborateurs. C'est vraiment très compliqué admettre, reconnaître que quelqu'un de sa lignée dont on vient à perpétuer des crimes ou en tout cas n'a pas été le bon personnage qu'on s'était imaginé dans notre enfance. Et ça, c'est une des explications, mais en fait ça, c'est à un niveau individuel. Et puis à un niveau collectif, on retrouve les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que en fait, on veut pas, par exemple en Belgique, certaines personnes se sentent menacées que d'autres personnes leur disent comment est-ce qu'un nom de rue doit s'appeler, comment une statue, enfin, quelles statues doivent être. Pour eux, c'est des autres, alors qu'en fait, ces personnes appartiennent à la société belge. En fait, on forme un tout, mais il y a cette perception de nous et eux ne peuvent pas décider pour nous ce qu'on considère être notre identité. Et évidemment, comme on a besoin que cette identité soit positive, parce que sinon c'est la destruction de soi-même. En fait, on a besoin d'une identité positive. Ben, on lutte vraiment de toutes nos forces. C'est une question un peu existentielle.
D'autant plus qu'en Belgique, étant un petit pays, quasi toutes les familles ont un membre de la famille qui est allé là-bas et qui a magnifié ça. Il y a un côté aussi d'exotisme et d'avoir l'impression que là-bas, la vie était facile, la vie était simple et la vie était belle, finalement.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'était quand même pas mal le cas. Il y a beaucoup de témoignages, justement, de personnes qui vivaient dans la colonie, qui reviennent et puis qui perdent vraiment beaucoup de qualité de vie en revenant en Belgique. Et apparemment aussi, ils étaient mal perçus en Belgique. Donc le retour a été doublement difficile parce que les Belges les voyaient aussi comme des gens qui avaient plus de droits, ou en tout cas, ils n'étaient pas spécialement positivement perçus. Donc...
Chaque jour, j'allumerai une cigarette noire. Chaque jour, je mangerai mon pain. Chaque jour.
nuit. Alors aujourd'hui, on est en plein dans une actualité par rapport au Congo, à la RDC aujourd'hui, puisque on connaît l'histoire de, enfin on connaît l'histoire de Lumumba, donc qui était le premier ministre du Congo indépendant, qui a été assassiné, et aujourd'hui on met en cause un Étienne d'Avignon, Étienne d'Avignon, qui est quand même une personnalité en Belgique hyper importante. Là aussi, il y a un pas qui est fait, là, quand même.
Bon, je sais pas, parce que quand même, en fait, 1999, Ludo de Witt écrit un livre sur l'assassinat de Lumumba, dans lequel il donne quand même certaines pistes. Il y a la commission parlementaire qui est faite sur la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba, où il y a quand même aussi des bonnes directions, enfin quand même des informations sur certains protagonistes. Et en 2010, si je ne m'abuse, peut-être 2011 ou peut-être 2009, enfin par là, la famille de Lumumba porte plainte pour crimes de guerre et pour que les personnes, je pense qu'il y avait 10 personnes qui étaient accusées à l'époque, et maintenant il y en a plus que un, et c'est Étienne d'Avignon, et il a 94 ans, quelque chose comme ça. Alors c'est purement symbolique, parce que évidemment qu'on va pas mettre en prison. Alors je dis pas que parce que c'est symbolique ça ne vaut rien, mais je pense que c'est pas à la hauteur. Enfin, c'est bien que la justice fasse quelque chose, mais c'est quand même, on est en 2026, ça fait 16 ans que la plainte a été portée. Entre-temps, il y a eu la dent de Lumumba qui avait été retrouvée chez le mercenaire, alors que lui, il avait dit depuis longtemps qu'il la possédait. Il a fallu que ça soit sa fille qui dise qu'elle est les dents, pour que de nouveau Ludo de Witt fasse en sorte qu'il y ait une perquisition. Enfin, donc, franchement... Alors, c'est bien, mais la Belgique aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux et beaucoup plus tôt.
Beaucoup plus tôt, en effet, pour au moins reconnaître sa responsabilité dans cet assassinat et dans la suite aussi, hein, puisque bon, Mobutu au pouvoir. Bref. Et alors. J'essayais de voir ça dans un côté plus peut-être positif, dans l'idée que peut-être enfin la Belgique admet et pas avec des excuses comme De Croo, Alexander De Croo, on peut faire. Enfin, c'est facile peut-être. Ici, il y a peut-être un acte qui est posé. Est-ce que c'est peut-être un premier pas vers une reconnaissance réelle d'une responsabilité et peut-être aussi d'une réelle décolonisation?
Alors, enfin, moi, je veux pas être négatif. Hein, je trouve que c'est bien de chercher le positif dans les actes qui sont posés. Mais non, pour moi, c'est pas du tout une décolonisation de quoi que ce soit, et c'est pas du tout une réparation, parce que, enfin, la justice, elle est là pour sanctionner en fait les torts et sanctionner quelqu'un qui est à la fin de sa vie. Je ne sais pas ce que ça vaut pour, en tout cas pour les personnes qui ont été victimes. Et puis pour savoir comment est-ce qu'il faudrait réparer, il faudrait alors ça demander en fait à la famille de Lumumba. Comment est-ce qu'on répare l'assassinat d'un père? Voilà.
Et bien, au-delà, comment est-ce qu'on répare en fait toutes les exactions qui ont pu être faites pendant une colonisation? Ça peut aller jusque-là, enfin, ça devrait aller jusque-là.
Oui. Mais ça, par exemple, Valérie Rozou, qui travaille sur les populations en conflit et l'après-conflit, comment est-ce que c'est négocié entre gouvernements, etc. Elle le dit bien, et je suis d'accord avec elle, on ne répare pas. Ça n'est pas réparable. On peut reconnaître, on peut essayer de faire mieux, mais il n'y a pas de contrepartie. C'est fait, c'est fait. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait maintenant, pour le futur, en sachant que tout a été détruit, enfin qu'il y a eu, enfin les multiples guerres. Comment est-ce qu'on reconstruit un pays? Comment on reconstruit une société quand après la colonisation où tout a été déstructuré, la culture, les gens, les groupes, le territoire, l'alimentation, enfin tout.
La religion aussi.
Voilà, la religion.
Et alors justement, vous avez travaillé beaucoup sur les restitutions aussi de ce qu'il y a dans nos musées finalement, et pas que dans nos musées, peut-être aussi dans les collections privées. Ça aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est toujours pas réglé. Donc en fait, on a entre autres au musée de Tervuren une énorme collection qui vient de cette colonisation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qui est, alors je ne peux pas dire légitime parce que, enfin voilà, on n'est pas, mais si, en fait finalement, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Alors, ouais, ça c'est vraiment un gros chapitre. Donc c'est déjà depuis, je pense le premier rapport c'était 2018 en Allemagne, rapport sur comment est-ce qu'il faut traiter les collections issues du contexte colonial. Puis après, il y a eu le rapport de Binik Savoy et Félouine Sarr, qui est sorti en 2019, c'est ça, juste avant l'ouverture du musée, c'est ça, 2018, qui est vraiment un rapport en faveur de la restitution des patrimoines culturels, en déclarant quand même que toute acquisition pendant la colonisation peut être considérée comme illégitime, vu que la colonisation est illégitime. Enfin, en tout cas, oui. Et je suis assez d'accord avec ça. Ceci dit, le rapport ne dit pas qu'il faut tout rendre. Hein. Le rapport de Binik Savoy et Félouine Sarr a été vu comme un rapport révolutionnaire, mais il était quand même plein de conditions et de règles sur comment ça doit se faire, etc. Mais en tout cas, il a fait trembler beaucoup de musées, dont le musée de Tervuren, qui était à la base plutôt contre, et puis après un peu plus, mais il parlait de restitution digitale, ce qui n'a pas du tout la même ampleur. Et puis là, au tournant, avec la réouverture du musée, il y a eu vraiment un tournant sur... en fait, on veut rendre, on veut restituer. Et ça a été accompagné par les déclarations de Thomas d'Hermine, qui a déclaré qu'il allait faire une loi pour la restitution des patrimoines culturels issus du contexte colonial acquis illégitimement. Et donc là, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on identifie ce qui a été acquis illégitimement. C'est toujours la question, si c'est un don, si c'est un achat et qu'on a la preuve, ça veut dire que ça a été bien acquis. Si ça a été acquis lors d'un conflit ou que ça a été volé ou qu'on n'a pas vraiment... que c'est un objet qui n'aurait pas dû être vendu ou donné, on peut considérer que c'est mal acquis. Et donc là, il a fait cette loi qui est un peu la première loi en Europe qui va dans ce sens-là, mais qui n'a aujourd'hui... Donc elle est... Je pense qu'il a fait la déclaration... Il faut toujours que je réfléchisse. La loi, elle date de 2022 et on est en 2026 et il n'y a rien qui a été restitué. La seule chose qui est retournée au Congo, c'est le masque que le roi a ramené, mais qui est encore en prêt.
Limité.
Ouais. Pas limité, non, mais prêt longue durée, ils appellent ça comme ça, prêt longue
durée. Je croyais que c'était limité, du coup, mais même pas.
C'est longue durée, et en fait, c'est pour être restitué, mais le transfert de propriété n'a pas été fait. Et en fait, le choix de ce masque qui a été rendu s'est fait de façon complètement unilatérale en Belgique. Alors qu'en fait, au Congo, ils avaient des demandes plus précises, ou en tout cas, ils auraient bien aimé être consultés pour décider ensemble ce qui devait être l'objet symbolique à rendre lors de la visite du roi. Et donc aujourd'hui, oui, on est vraiment dans une situation où on a une loi, mais qui est quand même un peu compliquée à utiliser parce que la plupart des objets, on n'a aucune idée de la façon dont ils ont été acquis. Et que faire des recherches pour savoir comment est-ce que l'objet a été acquis, ça peut prendre des années. Un objet des années, là, il y a tellement d'objets. Enfin, donc c'est vraiment... Et puis, il y a aussi le fait que... au Congo, il n'y a pas non plus un tapis rouge pour le retour de ces objets. Il y a clairement une position qui est en faveur de la restitution de nombreux objets. Pas tout le musée d'État virtuel, mais de nombreux objets. Voilà, les conditions pour cette restitution ne sont pas encore rassemblées. Aussi du côté congolais. Okay. C'est pas que la Belgique qui dit les conditions ne sont pas rassemblées. Aussi au Congo, voilà.
J'allais dire, c'est aussi, ça reste un rapport de domination, du coup, quelque part.
Mais ça reste quand même.
Complètement. C'est complètement encore un rapport de domination. Et c'est pour ça que beaucoup de pays occidentaux utilisent la restitution parallèlement à des négociations pour des ventes d'armes. Ça, on avait vu avec sous Emmanuel Macron, si je ne sais plus, c'était la restitution du sabre. Et parallèlement à la restitution du sabre, ils ont fait signer des contrats de vente d'armes, quoi.
Oui, ben autant utiliser, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais je crois que c'était en France aussi où il y avait ce côté de « on ne va pas le restituer » parce que... Mais je me demande si c'est pas Sarkozy, mais je suis pas très sûre, qui disait « on ne va pas le restituer parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont en faire ». Donc il y avait là aussi...
Oui. Mais ça a été vraiment un argument qui a été très, 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 très longtemps utilisé. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'entends moins. Mais je travaille aussi moins sur cette question. En tout cas, en Belgique, à Tervuren, on l'entend plus. Mais quand je travaillais sur cette question en 2019-2020, ça s'entendait partout. Partout, les gens disaient, on veut bien rendre, mais on doit avoir des garanties de conservation. Donc, l'objet soit entreposé dans un endroit qui permette de le conserver au mieux. Alors qu'en Belgique... c'est pas le cas.
On sait ce que c'est.
Voilà. Donc, c'est de nouveau en disant ça, pour les gens qui ne connaissent pas les conditions des musées et de conservation, ça donne juste l'impression qu'en Afrique, ils ne sont pas capables de conserver des objets alors que l'Europe l'est. C'est comme, c'est comme avec le British Museum où ils ne veulent pas rendre des objets et puis ils se rendent compte, je ne sais pas, c'était il y a un an ou deux ans qu'il y avait un des conservateurs qui vendait des pièces de leur collection sur eBay. Donc, en termes de conservation, de garantie de conservation, on était loin, quoi.
Et donc ces rapports de domination restent et donc alimentent finalement ce côté aussi que ce racisme existe encore aujourd'hui. Oui. Parce qu'on est dans, c'est du racisme d'État finalement.
Ça alimente et en fait, c'est ça aussi. C'est aussi plus facile de détricoter certains arguments parce qu'on voit directement leur parentalité avec les postures coloniales. C'est encore l'Europe qui sait comment est-ce qu'un objet doit être conservé, même si l'objet il a été créé par d'autres que lui. C'est l'Europe qui va expliquer comment est-ce qu'un objet doit être exposé. On est vraiment, dans cette perception du monde. Et en même temps, le musée est une création occidentale. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, quand des musées sont créés, par exemple, au Congo, avec l'idée d'accueillir des objets qui sont à Tervuren, on est dans une reproduction de comment est-ce que l'objet est conservé en Europe.
Et comment on doit le conserver ? C'est dans un musée, donc il y a le concept de musée qui n'est peut-être pas...
Voilà, c'est ça.
Et alors, qui n'est pas universel.
Voilà. Et d'autres personnes donc militent plus pour que l'objet retourne aux communautés et que la question de la conservation ne soit pas un argument et que l'objet, s'il est voué à disparaître, puisse disparaître. Parce qu'il y avait beaucoup d'objets qui étaient créés avec des matériels comme du bois et qui étaient voués à disparaître, à être utilisés et puis après à mourir. Donc la restitution qui oblige l'objet de rester dans un musée, c'est de nouveau une perception européenne. Et je ne dis pas qu'au Congo, ils ne veulent pas ça. Hein. Enfin, après, au Congo, il y a autant de voies différentes qu'ici. C'est évidemment une grande société avec plein de points de vue qu'on peut retrouver. Donc, il y a des gens qui vont plutôt militer pour que le retour retourne au musée, d'autres qui vont plutôt militer pour que ça se retourne aux communautés, d'autres qui vont dire il ne faut pas les ramener parce que ça va créer des conflits, d'autres qui vont dire mais en fait, on ne sait même pas à quoi ça sert, d'autres qui vont dire ah, mais en fait, ces objets-là, ils sont morts. Ou d'autres qui vont dire, par exemple, avec le crâne de Lusinga, donc c'est un chef qui a été tué par Emil Storms en 1882-84. Et cet agent colonial, donc agent de l'État indépendant du Congo, qui travaille pour donc, Léopold II, a ramené le crâne de Lusinga, qui est maintenant à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Et des gens donc, qui vivent là où Lusinga vivait, disent qu'en fait, tant que le crâne n'est pas revenu, il y a une malédiction sur les chefs coutumiers de cette région. Donc pour certains, le retour alors des restes humains ou d'objets a un impact très concret sur leur vie politique actuelle.
Ce qui est logique, enfin, quand on parle de restes humains, qui est une croyance ou une autre, enfin, ce sont des restes humains, c'est logique que ça revienne finalement. Enfin, on pourrait trouver ça logique.
Oui, moi je veux pas. Je pense qu'il n'y a pas de perception universelle mais clairement, le fait que ça a été acquis en contexte colonial, qu'on sait que c'est violent, que le chef a été tué parce qu'il justement luttait contre l'expansion de l'État indépendant du Congo et que son crâne a été ramené comme trophée, c'est tout est hyper macabre et violent. Après, j'avais fait une interview il y a longtemps avec Patrick Sommal, qui est conservateur à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, qui disait que en fait ils ont plein de collections aussi de nos régions, quoi, plein de restes humains. Et donc là, en fait, effectivement, il y a aucun Belge qui vient demander. Après, les restes humains sont en Belgique,
oui,
mais ils sont quand même dans des boîtes aussi et ils sont étudiés pour, je sais pas. Ouais. Pour la science, mais c'est moins proche et c'est pas le contexte colonial, c'est plutôt des restes humains qui ont été.
C'est plus de l'archéologie là.
Peut-être.
Alors moi je veux pas me positionner, mais en tout cas oui, c'est vrai que ça ressemble plus à de l'archéologie, on le trouve et on le conserve. Mais après voilà, donc c'est pas, je trouve que c'est pas vraiment que la question que ça soit des restes humains, c'est aussi les sentiments, les émotions qu'on y donne et auxquelles, enfin, parce que justement oui, la colonisation c'est il n'y a pas si longtemps et puis on a encore le racisme contemporain et encore emprunt de cette colonisation, il y a des traumatismes qui sont encore transmis de génération en génération et qui remontent à cette période, donc il y a un besoin réparateur, même si ça ne va pas réparer, hein, mais il y a un besoin pour guérir, il faut déjà que ces restes humains reviennent. Ça ne veut pas dire que ça suffira, mais c'est une étape importante.
Une autre étape, comme vous parliez tout à l'heure de décolonisation de l'espace public, ça peut être aussi par là, en se disant que certaines statues n'ont plus lieu d'être, que certains noms de rues n'ont peut-être plus lieu d'être.
Oui, alors moi, je faisais partie du groupe de travail pour la décolonisation d'espace public qui avait été mis en place par Urban. Et c'est vraiment pour ça qu'on milite. Enfin, qu'on milite. Qu'on a milité dans le texte. Mais voilà, après, ce qui est intéressant, je pense vraiment intéressant et qu'on doit garder en tête, c'est que il y a plein de traces coloniales dans l'espace public et personne ne s'en rend compte. Alors, parfois, dire « Ah, lui, c'était un agent colonial, il faut retirer le nom », ça met plus de lumière sur une partie de l'histoire qui avait été complètement oublié. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pas vraiment la question de ou la bataille de il faut retirer, il faut garder qui est importante. C'est la médiation qu'il y a autour de est-ce qu'en fait on veut que ça soit là. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on dit que la décolonisation, c'est un processus et c'est pas une fin en soi. L'idée, effectivement, ceux qui critiquent la décolonisation de l'espace public, qui disent ils veulent retirer tous nos statues et nos rues, ont raison de s'offusquer de ça. Mais c'est pas du tout ce que la décolonisation propose. La décolonisation ne veut pas effacer l'histoire.
Non, c'est ça, parce qu'en fait, ce n'est pas effacer. Déboulonner, c'est effacer. Ici, il n'y a pas de volonté d'effacer.
Oui, ou s'il y a déboulonnement, et c'est ce qu'on disait aussi dans le rapport, s'il y a déboulonnement, il faut que ça soit documenté et qu'à l'endroit où l'objet a été, enfin, la statue a été déboulonnée, on ait une image qui montre l'objet qui était là. C'est pas, effacer l'histoire, c'est mauvais, mais pour tout le monde, pas. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est mauvais parce que c'est leur identité qu'on efface. Eux, donc, c'est les personnes qui militent pour que tout reste tel quel. Pour ceux qui sont pour la décolonisation de l'espace public, on est plutôt pour réfléchir sur cet espace public. Est-ce que, enfin, aujourd'hui, on sait, les villes ont été construites chaque fois pour la bourgeoisie, donc et pour par des hommes. Donc les trottoirs sont pas adaptés aux poussettes. Maintenant, après, ça a été la voiture roi. Donc tout l'espace public a toujours été construit à certaines fins. Maintenant qu'on est conscient de ça et qu'on se dit en démocratie, comment est-ce qu'on rend l'espace public démocratique en faisant dialoguer la population. Et donc là, je trouve ça intéressant de voir des gens qui tiennent un nom de rue parce que ils ont toujours habité dans cette rue-là et ils veulent pas changer de nom de rue. Ça, c'est des arguments. Des fois, oui, j'ai toujours habité dans cette rue. Ça me fera bizarre si le nom de rue change ou retirer une statue. Ah non, parce qu'en fait, Léopold II, il était aussi le roi des Belges. Il a fait des belles choses à Bruxelles, etc. C'est des arguments qu'on entend beaucoup et que cette personne puisse voir qu'en fait, Léopold II, pour d'autres personnes, c'est un individu, un acteur historique qui a traumatisé des générations par l'exploitation naturelle, l'exploitation des hommes sur un territoire qui fait 80 fois la Belgique.
Et dans lequel il n'a jamais été par ailleurs.
Pardon ?
Et dans lequel il n'a jamais été par ailleurs.
Et dans lequel il n'a jamais été par ailleurs, voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes histoires, ces différentes facettes de Léopold II puissent être visibles aux passants qui regardent la statue de Léopold II, comme la station de métro Pétion. Personne ne savait que c'était un agent colonial. Et puis,
je ne le savais pas non plus, je l'ai lu en préparant cette émission.
Mais voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un habitant du quartier qui a lancé une pétition pour décoloniser la station de métro. Et puis, en fait, face à ça, on a la STIB qui dit « on changera le nom de la station de métro quand la rue changera de nom ». Et on est dans le quartier de Terbeek, le quartier colonial, où le bourgmestre de Wolf a dit « non, mais moi, je vais rien changer. Les noms ne changeront pas ». Donc, mais en même temps, ça fait parler, ça fait connaître l'histoire, et ça fait connaître, l'histoire de Pétillon, d'Arthur Pétillon, mais ça fait aussi se rendre compte que à Éterbé, par exemple, il y a tout un quartier avec que des noms de rues d'agents de Léopold II. Et par exemple,
c'est ce quartier-là, le quartier de Pétillon, alors
ouais,
du coup.
Oui, et de l'autre côté de l'avenue des Volontaires. Oui, entre Pétillon et l'autre arrêt, c'est Thieffry. Et Thieffry aussi, là, c'est un aviateur qui a fait Bruxelles-Congo, je ne sais plus quelle ville au Congo, et donc qui est aussi notamment connu pour ça, pour le premier homme à avoir volé au-dessus de l'Afrique. Oui.
Ah ben voilà. Donc donc pour l'instant, là, on est toujours dans une. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une société raciste ? Alors là, c'est peut-être du coup un concept beaucoup plus.
Non, oui, enfin oui, on est dans une société raciste et je pense aussi il faut pas. Je pense que tout le monde est raciste en fait, pas raciste qui veut être raciste. Je pense que quand on veut pas être raciste, il faut travailler sur ses représentations constamment. En fait, je pense que des fois c'est même plus facile de faire le lien avec le sexisme. On sait très bien que les femmes ont moins de place dans la société, et qu'elles ont un salaire plus bas, etc. On sait qu'il y a des discriminations structurelles qui sont faites vis-à-vis des femmes. Se dire féministe, c'est bien, on lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ça n'empêche que des fois, moi ça m'est déjà arrivé, de me rendre compte que, par exemple, y avait plusieurs présentations, et celle où j'étais la plus distraite, c'était quand une femme parlait. Et de réaliser ça et de se dire « Ah, ça va pas ». Mais en fait, c'est pas parce que je pense que les femmes sont moins dignes de mon attention, c'est juste parce que, en fait... Dans mon éducation, j'ai appris à faire plus attention aux hommes qu'aux femmes, par exemple, ou à peut-être considérer que les femmes étaient à faire moins bonnes présentations ou avoir moins de charisme ou je ne sais quoi. Donc en fait, la société est raciste encore aujourd'hui. On peut le voir du fait des discriminations qui sont encore en place, l'accès au logement, etc. Et c'est notamment par des biais inconscients. Donc la société est raciste et la plupart des gens sont racistes parce qu'ils ont grandi dans ces sociétés, comme la plupart des gens sont sexistes. Et pour lutter contre le racisme, être antiraciste, ça veut dire faire attention à nos biais. Quand je suis face à une femme ou à une personne racisée, c'est-à-dire que je pourrais identifier comme n'étant pas belge d'origine, est-ce que mon comportement est différent ? Et qu'est-ce que je fais pour que ça ne soit pas le cas ? Qu'est-ce que je fais pour l'égalité entre les gens, de manière générale, quel que soit, enfin, comme on parlait au début de sexisme, d'homophobie, en fait, qu'est-ce que je fais pour que ces biais que j'ai intégrés en grandissant dans cette société, à travers la publicité, les séries, enfin, je ne sais quoi.
Et même l'école.
L'école. Ouais, c'est fou, ça, l'école, exactement. Qu'est-ce que je fais pour lutter et pour ne pas reproduire ces discriminations de façon structurelle ?
Ça, c'est vraiment un comportement antiraciste.
Je pense, oui. C'est comme ça que je le vois, oui.
Donc, en gros, c'est apprendre à se déconstruire, finalement, de tous nos biais, en fait, appris et acquis.
Oui, c'est ça. À un niveau individuel. Après, à un niveau collectif, il y a des grandes luttes à mener. C'est important qu'elles soient collectives. Mais oui, à un niveau individuel, je le traduirais comme ça, oui.
Après, on verra pour les grandes opérations, on va dire, collectives, parce que ça devient compliqué si chacun et chacune n'a pas déjà entamé le travail, en fait.
Oui, ça c'est... Oui.
Alors, c'est une question d'État, quoi.
Voilà, c'est vrai. Je pense que c'est une question d'État, que ça doit se faire au niveau de l'État, comme il peut. Évidemment, individuellement, c'est important, mais collectivement, ça peut être aussi... aider dans une maison de quartier, je sais pas, ou créer des liens d'une façon ou d'une autre à travers des collectifs, ou aider, organiser des fêtes de solidarité, récolter de l'argent pour, je sais pas, aider des sans-papiers. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites je sais pas, ça peut être des hommes qui font la garderie le 8 mars pour que les femmes puissent aller marcher et les femmes qui sont mères puissent aller marcher sans devoir prendre leur enfant. Il y a plein de choses qui doivent s'organiser en collectif. Ouais.
Allez, on est parti pour la déconstruction, c'est ce qu'on espère en tout cas. Yasmine Azian, merci beaucoup en tout cas pour cette interview.